la traversée. La traversée, une émission de Lucien Bertolina et Gilbert Racina sur les relations entre la France et l'Algérie depuis 1954, avec aujourd'hui Amar Sidolfi. Amar Sidolfi, bonsoir. Vous êtes né en Égypte, de nationalité algérienne, mais né en Égypte, alors une date importante, puisque c'est un 1er novembre.
1er novembre 75, oui.
1er novembre 75. Vous faites actuellement vos études en France, après avoir accompli tout votre cursus d'architecte à l'École des Beaux-Arts d'Alger.
J'ai fait 5 ans d'architecture, et j'ai fait 5 ans de à l'École des Beaux-Arts d'Alger. Et puis j'ai intégré l'école des Beaux-Arts à Marseille.
Et donc vous venez en France, alors pour quelle raison êtes-vous venu en France à Lumini, à l'école des Beaux-Arts de Lumini?
Pour nous Algériens, c'est quand même faire des études artistiques dans un pays où l'histoire de l'art est bien ancrée et bien... Et pour nous, c'est la France. Je ne sais pas si c'est une chose culturelle dans notre famille. Mais il est clair que mon père représente pour moi une sorte de référence dans ce but de recherche et d'aller voir ailleurs. Vous voyez un peu, mon père, il a quitté l'Algérie en 57. Il est parti en Tunisie, puis en Égypte. Il a passé son bac en Égypte. Puis il a intégré Berkeley à San Francisco. Pour faire des études en architecture. C'était les années 60, c'était John Baez, c'était Bob Dylan, c'était... Et moi, quand j'avais 5-6 ans, ce que j'écoutais à la maison, c'était les disques, c'était les vinyles de mon père, c'était les Beatles, c'était Bob Dylan, c'était... Et ce qui est encore plus paradoxal dans l'histoire, c'est que mon père est très imprégné de la culture orientale, vu qu'il a passé, il a fait ses études secondaires en Égypte. Du coup, à la maison, il y a une double culture, mais j'écoutais les Beatles comme j'écoutais Abdel Halim Hafez ou Farid Al-Atrash.
Mais en Égypte, il est donc resté un certain moment, il était anglophone ou dans des établissements
français? Mon père est anglophone. Mon père, il a fait ses études en Égypte, il a fait ses études en anglais et aux États-Unis. Et pareil, il a fait ses études en anglais. Il n'est pas francophone. Voilà.
Ça vous a donné un recul vis-à-vis du monde arabe?
Vous dites du recul, oui. Parce que je suis imprégné de cette culture... ma mère a vécu en Égypte, moi je suis né en Égypte. On mange des plats égyptiens, je parle même égyptien. Mon père adore l'Égypte et quand il parle, il parle de l'Égypte, il parle de ses cafés, des ruelles, vous voyez un peu ce côté un peu presque vivre un rêve. Et lui, il était jeune et pour lui... Il venait de fin fond de la Kabylie, des montagnes de la Kabylie. Il se retrouve en Tunisie, puis en Égypte, puis les États-Unis. C'est beaucoup pour un jeune Algérien, quoi.
Alors, vous vous sentez... D'abord, avant de parler de ce que vous ressentez vous-même, il reste combien de temps aux États-Unis?
Aux États-Unis, c'est de 62 à 68.
Donc, vraiment la belle époque.
Ouais, c'était vraiment... C'était l'époque de la révolution sexuelle, c'était l'époque du rock'n'roll. En plus, il était à Berkeley. Berkeley, c'était la côte ouest, la vie rêvée pour un jeune. Voilà.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous sentez, comment dirais-je, plutôt arabe ou plutôt... parce que vous avez une culture... une pluriculture, vous avez une culture très large, forcément, en ayant vécu dans d'autres pays, ou plutôt algérien?
C'est très, très, très compliqué pour répondre à cette question. Parce que c'est vraiment compliqué. Parce que je suis né en Égypte, je suis algérien, je suis algérois. C'est très différent. Algérien, algérois. Algérois, c'est très différent. Algérois, c'est spécial. C'est pas. Je suis kabyle. Mon père a vécu aux États-Unis. Je suis venu en France jeune. Je me souviens même du premier film que j'ai vu ici en France, à Paris. C'était Kramer contre Kramer. Et je peux même dire que c'est le film qui m'a donné envie de. Je sais pas. La première fois que vous voyez un film, j'avais 8 ans. C'était en 83. Je voyais Kramer contre Kramer sur un grand écran. Et vous dites arabe ou. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, je sais que je ne peux pas dire, je ne peux pas affirmer que je suis arabe, mais je suis algérien. Et aujourd'hui, l'Algérie fait partie de l'Union arabe. Mais il est clair que la notion de amazérité,
C'est-à-dire de la
c'est
berbérité,
de la
oui.
berbérité, est très ancrée en moi. Je suis kabyle, je suis berbère. Avant d'être algérien. Voilà.
C'est un point important. C'est-à-dire que non seulement si je vous pose la question, vous sentez arabe, plutôt arabe qu'algérien, vous me répondez, je me sens plutôt kabyle. Mais ce rapport entre l'Algérie et le monde arabe, vous le sentez, il y a une différence, il y a des similitudes. Comment peut-on parler de l'Algérie dans le cadre du monde arabe?
Moi, ça me fait mal de parler de ça. Parce que moi, j'ai vécu vraiment. J'ai 31 ans. Et en 90, je dirais pas en 90, je dirais en 92, j'avais 17 ans. Ça veut dire quand la violence a commencé en Algérie, j'avais 17 ans. Ça veut dire j'étais adolescent. Et moi, j'ai jamais quitté l'Algérie. En 92 jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais quitté l'Algérie. Je suis venu quelques fois en France. Mais j'ai vécu la période de la violence, je l'ai vécu en Algérie. Et quand vous me parlez du monde arabe, et l'Algérie dans le monde arabe, moi j'ai du mal à parler de ça, parce que le jour où les Algériens se faisaient massacrer, le monde arabe n'était pas là pour nous. L'Algérie s'est retrouvée seule.
Vous avez vécu toutes les années noires
Exactement.
en Algérie.
En Algérie, oui.
Mais ça a été dramatique, même à l'école des Beaux-Arts d'Alger, puisque le directeur a été assassiné.
Ça a été dramatique. Moi, j'étais en 80, dans les années 90, j'étais à l'école d'architecture. On a eu plusieurs profs. On a eu même l'ancien directeur de l'école d'architecture qui a été assassiné. Quelques profs assassinés. Les profs menacés de mort s'ils continuaient à donner leurs cours. Et le directeur des Beaux-Arts, parce que j'ai fait mes études à l'école des Beaux-Arts aussi, et a été aussi assassiné. Voilà. Et durant toute cette période, on était seuls. Les Algériens vivaient, je sais pas. C'était une sorte de cauchemar qui a duré une quinzaine d'années.
Une quinzaine d'années, oui, avec 200 000 morts, minimum, oui.
Minimum. Minimum. On peut pas compter. Les disparus, les... C'est un carnage.
Et ça a touché notamment des journalistes, bien sûr.
Surtout les journalistes, les intellectuels, les gens qui pouvaient changer les choses. Parce que le terrorisme, au début, ne s'attaquait pas à la population, ou s'attaquait vraiment au cadre, aux intellectuels, les gens qui essayaient de changer les choses. Les hommes de théâtre, on a Abdelkader Allola,
Bien sûr.
il était directeur du théâtre d'Oran, il a été assassiné. On a Azzedine Medjoubi, qui était directeur du théâtre d'Alger, il a été assassiné à quelques mètres de la sortie. On a Tahar Jaout, journaliste, écrivain. Il a été assassiné. Et la liste est longue. Voilà. Et c'était vraiment une période, mais je ne sais pas comment aujourd'hui, nous, Algériens, on arrive à garder le sourire. Je ne sais pas, je ne sais pas. On ironise, on ironise. Aujourd'hui, on rigole de nos malheurs. Il y a flag, il y a.
Bien sûr. À ce moment-là, votre père est donc en Algérie depuis un moment. Vous n'avez pas envie de partir d'Algérie, connaissant le monde arabe, trouver des cieux plus propices, enfin, plus cléments. Vous n'avez pas envie de partir de l'Algérie, vous restez quand même en Algérie.
Franchement, moi j'avais un projet, je voulais partir aux États-Unis. C'était une sorte de rêve, de partir aux États-Unis. Mon père, il a fait la Californie, la côte ouest. Et j'avais ce rêve de peut-être d'utiliser les relations de mon père aux États-Unis pour faire une école de cinéma ou je ne sais pas quoi. Mais au fur et à mesure de l'évolution de ma vie en tant qu'étudiant, je voyais que finalement, cette violence et toute cette tristesse qu'on vivait pouvait justement m'apporter quelque chose. Et ça m'a aidé justement à écrire et à imaginer des choses que peut-être je n'aurais pas pu imaginer si je vivais dans un pays où il n'y avait pas de violence. Ou... Je ne sais pas si vous me comprenez ou pas.
Si, je comprends très bien, mais il faudrait peut-être préciser, parce que c'est très important. C'est-à-dire, au lieu de partir, vous restez là pour voir.
Pas juste pour voir, pour résister. Résister. Parce que nous, on voyait les artistes partir. On voyait les gens partir. On a passé une période qui était très difficile. C'était la fin des années 90. Et il n'y avait plus de culture en Algérie. Il n'y avait plus de salles de cinéma. Les salles de cinéma, il n'y avait plus de projections. Il y avait les musées fermés. Il n'y avait plus de vernissage. La culture est morte, quoi.
Oui, durant plusieurs années, je crois, il n'y a plus de production de films.
Rien du tout, rien du tout. Et c'est quelque chose qui m'a poussé quelque part à rester encore. Je me disais, il faut rester et il faut essayer de profiter justement de cette parce que nous, Algériens, on a du recul par rapport à la violence. Que par exemple des pays comme le Maroc ou la Tunisie n'ont pas, par rapport justement à cette violence qui vient de l'extrémisme religieux. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais aujourd'hui il est très difficile de retomber dans les mêmes erreurs. Dans les années 90, l'État algérien a permis à des partis politiques d'utiliser la religion comme projet de société. Et c'est ça l'erreur, c'était de permettre à des partis d'utiliser la religion.
Vous pensez au fils, là.
Exactement. Parce que la religion était c'était tricher, utiliser la religion c'était une sorte de tricherie, utiliser la religion comme projet de société. Parce qu'il est clair que tout le monde va être d'accord avec les préceptes de l'islam, mais l'utiliser de cette manière et vu les résultats aujourd'hui, ça a été l'erreur. Et aujourd'hui en Algérie, il est interdit d'utiliser le mot islam dans le nom d'un parti politique. Le fils, c'est le front islamique du salut. Le I, c'est islamique.
Quel est votre sentiment? Comment vous expliquez ça? J'entends, comment vous ressentez ça? Ce qui s'est passé en Algérie? Parce que c'est vraiment très particulier. Ça ne s'est pas passé, à ma connaissance, dans d'autres pays arabes. Il y a eu des coups d'État, il y a eu, bon, des tas de problèmes. Il y en a d'autres aujourd'hui. Mais ce type de problème ne s'est pas posé dans d'autres pays arabes. Est-ce que ça tient à l'Algérie? Ça tient à quoi?
Franchement, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que avant 92, avant les élections de 80, 91, les élections où le Front islamique du salut a remporté les élections, ce qui est sûr, c'est que les Algériens étaient persuadés à 100% que toutes les élections étaient truquées. Ça veut dire, à chaque fois, il y avait le parti du pouvoir, le FLN, qui remportait les élections. Il faut vraiment comprendre ça. Et quand il y a eu le 5 octobre 88, le soulèvement populaire en Algérie et tout, les jeunes sont sortis, plusieurs morts et tout, l'État algérien a décidé d'ouvrir la politique aux partis. Plusieurs partis se créent. Le FFS, le RCD, c'est des partis berbères, le Parti des travailleurs, le FIS et tout. En 91, quand les élections sont arrivées, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Tout le monde était persuadé que le FLN allait remporter les élections. Parce qu'on était habitué à ça. Ça veut dire que le peuple était persuadé que le FIS ou le FFS ou le RCD n'avaient aucune chance de remporter les élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un taux énorme d'abstention. Ça veut dire les gens n'ont pas voté. Par contre, les fidèles du FIS ont tous voté. Et c'était la première fois où des élections se sont déroulées d'une manière. Il n'y a pas eu triche. Ça veut dire le FIS a vraiment remporté les élections. Pourquoi? Parce que les autres n'ont pas voté. Tout le monde était persuadé que c'était perdu d'avance, tout le monde était persuadé que le FLN allait remporter les élections. On dirait que les jeunes des années 80 avaient une forme de complexe vis-à-vis de leur père ou de leur grand-père et ils voulaient faire leur propre guerre pour prouver que finalement, il n'y avait pas que les résistants du FLN qui pouvaient monter au maquis. Même les jeunes Algériens des années 80, eux aussi peuvent monter au maquis pour faire leur propre révolution et pour changer les choses, eux aussi. Parce que ce que proposaient les anciens du FLN et les anciens du pouvoir qui ont pris les armes dans les années 50 et
54,
54
le 1er novembre,
finalement ne répondait pas finalement aux besoins du jeune Algérien.
C'est-à-dire qu'on rejoue la guerre de libération d'une certaine manière.
Je ne peux pas dire ça. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot rejouer, mais c'est un peu ça.
Donc il y a un particularisme avec l'Algérie, là, parce que c'est cette guerre de libération qui est mal assumée, ne serait-ce qu'en raison de la propagande, on ne peut pas employer ce mot, du gouvernement pendant plusieurs années, qui a donné une image de cette guerre de libération telle que des fils se révoltent contre les pères.
On peut dire ça, je crois. Posé comme ça, je ne saurais répondre à la question.
Vous la poseriez comment?
Je ne sais pas. Mais il est évident que ce qui s'est passé en Algérie, c'est le résultat de beaucoup de choses et beaucoup de problèmes liés à l'inconscient. Moi, je me souviens des années 80. J'étais très jeune. Et il est clair que c'était pas évident de vivre une vie. J'ai du mal.
À l'ombre d'une histoire qui n'était pas peut-être tout à fait la vôtre.
Si, si, si. Moi, je suis très fier de l'histoire de l'Algérie. Et par contre, l'indépendance, le 5
Oui.
juillet 62, cette date-là reste dans la mémoire des gens comme comme une superbe date, parce que c'est la date où l'Algérie s'est libérée finalement du colonialisme. Mais je crois que la manière dont les choses se sont passées après, par rapport au... Je pourrais parler des programmes scolaires, par exemple.
Oui.
Programmes scolaires, c'est... Il y avait une forme de matraquage. Il y avait une forme de matraquage de l'histoire. 54-62, la résistance, le FLN, l'Armée de Libération Nationale... En 7 ans, on a réussi à faire sortir la France de l'Algérie. Moi, je suis fier de cette histoire. Mais quelque part, je suis sûr que la jeunesse de l'époque des années 80 se disait « c'est vrai, en 7 ans, on a réussi à faire sortir la France ». Mais aujourd'hui, on est en 85, en 86. Oui. On est quoi dans le monde? On est quoi? Un jeune Algérien des années 80, il est quoi? Il est étudiant, il est lycéen, il est au primaire, il est... Mais quelque part, il s'est créé, je ne sais pas si c'est ce que je suis en train de dire, je ne sais pas si c'est la vérité, mais c'est ce que je ressens. Il s'est créé une sorte de complexe. Il s'est créé une sorte de complexe qui a fait que les jeunes... Là, j'ai du mal à expliquer mes idées, mais une sorte de complexe qui fait que le jeune a du mal à vivre justement dans l'ombre de ses aïeuls, c'est ça?
Eh bien, exactement, oui. Il vit dans le passé des autres. Ben, c'est ce que je crois.
Je crois.
Et je veux dire que ce passé est mythifié.
Oui.
Parce que une question que je pose, il faut bien savoir que le 5 juillet, c'est le résultat d'une élection. L'indépendance de l'Algérie a été acquise au lendemain d'une élection provoquée par De Gaulle.
Mais c'est pas par rapport à ça, c'est... À mon avis, le soulèvement populaire du 8 octobre 88, je me souviens, c'est 5 octobre ou 8 octobre, c'est le 8 octobre normalement. Le soulèvement des jeunes au 8 octobre 88 aurait dû être comme une sonnette d'alarme pour l'État, pour le pouvoir algérien, normalement. Parce que le soulèvement-là a montré et a démontré que les gens en avaient marre. Et il y avait des jeunes qui n'avaient aucun problème à sortir dans les rues et à casser, à détruire, et ça veut dire il y avait des gens qui n'avaient pas peur de mourir. Le pouvoir aurait dû voir et ressentir et détecter et comprendre que il se passait quelque chose dans la jeunesse algérienne, que la jeunesse algérienne pouvait péter les plombs facilement. Ça s'est produit en 88.
En tous les cas, on l'entend comme ça en France. On entend qu'il y a une révolte, qu'il y a une revendication.
Revendication sociale, revendication culturelle.
Beaucoup d'étudiants.
C'est des étudiants. C'est la plupart. Ça a éclaté à Bebzouar, oui, à l'université Houari Boumdine, à Bebzouar. Et il est clair que personne n'était satisfait de la situation en Algérie. Les jeunes n'étaient pas satisfaits. Les moins jeunes n'étaient pas satisfaits. Les moins jeunes ont fait la guerre de libération nationale et les jeunes voulaient leur révolution aussi. Mais c'est clair que le jeune algérien est très très exigeant. Et à mon avis, l'exigence est venue justement de ce passé. Il y a pas, à mon avis, en Algérie, il y a pas un jeune qui n'a pas un grand-père ou un père ou un oncle qui n'a pas été résistant à la période de la guerre de libération nationale. Ça veut dire, d'un côté, il est très fier, le jeune Algérien est très fier de son passé, mais de l'autre côté, il n'arrive pas à faire des choses.
Être dans le présent.
Et être dans le présent. Et à un certain moment, ça doit éclater, exploser. 88 et puis 91.
Oui, parce que 88 avorte, donc il y a 91, bien évidemment.
88 n'avorte pas, parce que grâce à 88, la pluralité politique existe en Algérie. Les multipartismes et tous les partis politiques qui se créent et tout. Et le pouvoir joue le jeu. En 91, les élections, elles ne sont pas trafiquées. Je crois que c'est la première fois où les élections ne sont pas trafiquées en Algérie.
C'est-à-dire qu'il y a, enfin, l'expression est
Ce qui permet à Office de remporter les élections.
Vous suggérez qu'il y a comme un conflit de génération. Oui, c'est un peu comme les événements de 68.
C'est exactement ça, à mon avis. Il s'est produit un conflit de génération. Il y avait les jeunes. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est un pays très jeune. 70%, 72% de jeunes. Il y avait un conflit de génération. Il y avait des gens qui avaient un discours. Il y avait des jeunes qui ne comprenaient pas le discours. Par contre, ils étaient prêts à écouter et à prendre tout ce qui venait justement à l'encontre du discours des plus vieux ou des anciens. Quand je dis des plus vieux ou des anciens, ça veut dire c'est les gens qui ont libéré l'Algérie.
Il faut dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une comparaison grossière avec les jeunes de l'immigration en France? C'est un peu ça aussi.
Par rapport à quoi?
Beaucoup de jeunes de l'immigration ne se retrouvent pas dans le propos de leur père.
Quand vous dites les propos de leur père, vous parlez de quoi?
C'est-à-dire ceux qui ont vécu en France, qui ont travaillé, et qui, en fait, ont été pour l'intégration, ont été très sages.
Vous voyez, vous dites l'intégration?
Bien sûr.
Et ensuite, vous dites?
Bien sûr, ce n'est pas un hasard.
Restez sage. Pour moi, rester sage, ce n'est pas l'intégration.
Mais bien sûr.
Parce qu'il y a des gens qui ont 60, 70 ans, 80, 75 ans. Ils vivent en France depuis les années 40. Mais ils ne parlent ni français, ni...
Non, mais le problème, c'est que beaucoup de jeunes, là, actuellement, je généralise, là, mais beaucoup de jeunes ont le sentiment de ne pas se retrouver dans le discours de leurs parents. Ils ont d'autres besoins. Ils ont d'autres envies, ils ont d'autres problèmes. Leur père travaillait durement, et ils ne travaillent pas, mais toujours durement. Ben oui.
Moi, je ne suis pas longtemps, je ne suis pas ici en
Bien
France
sûr.
Depuis longtemps, mais le peu que j'ai vu, ce que je suis en train de remarquer, parce que ça saute aux yeux, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance ici en France. Beaucoup de souffrance, et je crois qu'il y a une forme de révolte, mais qui s'exprime à travers un langage spécifique. Je crois qu'une nouvelle langue est apparue. Un mélange de français et d'arabe et quelque part, c'est l'évolution de la langue aussi. Même le français emprunte des... Mais à mon avis, la situation est plus compliquée, est très très compliquée. Pour un jeune Marseillais issu de dont les parents sont issus de l'immigration que pour un jeune Algérien. Parce qu'un jeune Algérien, culturellement, c'est clair, il est Algérien, ça veut dire il a accès à tout ce qui est Algérien, ou il peut même être occidental dans ses rêves ou dans ses désirs. Mais ici en France, un jeune issu de l'immigration, c'est compliqué pour lui. Parce qu'il est en train de vivre dans un pays occidental, mais ses parents sont toujours quelque part maghrébins. Ça veut dire, c'est pas vraiment une double culture. Pour moi, c'est une sorte de mélange qui donne On le voit, hein, des jeunes qui ne parlent pas parfaitement arabe et qui ne parlent pas parfaitement français. Une sorte de... Je ne sais pas comment je pourrais appeler ça.
Mais oui, mais cet échec, on le retrouve en Algérie d'ailleurs, curieusement, avec l'arabisation qui a été faite en dépit du bon sens, soyons clairs.
L'arabisation en Algérie, pour moi, ce n'est pas une erreur. L'arabisation, pour moi, c'est un projet auquel l'État algérien n'a pas donné les moyens nécessaires pour le réussir. Je ne dis pas que l'arabisation est une bonne chose. Mais à mon avis, le problème, c'est au niveau des moyens. On ne peut pas changer les programmes scolaires. Par exemple, le primaire, on enseigne en arabe, le secondaire en arabe. Et subitement, quand on arrive à l'université, ben, tout est en français. Moi, j'ai vécu ça. Moi, mon primaire, mes études primaires, c'était en arabe. Secondaire, c'était en arabe. Mais toutes mes études universitaires, c'est en français. C'est à vous tordre le cerveau. Non, mais ça veut dire quand on décide quelque chose, il faut se donner les moyens.
Mais c'est une injustice flagrante, parce que c'est-à-dire que l'enfant, le jeune élève, dont les parents parlent correctement le français, a beaucoup plus de chances d'accéder à l'université. C'est aussi simple que ça.
Je suis d'accord avec vous, parce que il suffit pas de parler français. Il faut parler, écrire, et ça c'est pas évident. On peut parler français, mais pour écrire et parler français, il faut faire tout un parcours, justement d'études en français. Je ne suis pas en train de dire que je suis pour la francophonie ou contre l'arabisation. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix. On fait les études en arabe ou on les fait en français. Voilà. Mais d'un autre côté, l'arabisation n'a pas eu que des défauts. Parce que moi, je me considère comme un bilingue. Je maîtrise l'arabe et j'en suis fier. Oui. Et le français, j'arrive à me débrouiller, voilà.
Oui.
Et pour moi, c'est une force. Voilà. En plus de ça, je suis kabyle, ça veut dire je suis trilingue. Je parle arabe, kabyle...
Vous parlez le kabyle, quand même.
Oui, bien sûr, je parle le kabyle. Pour moi, quand on apprend ou on maîtrise quelque chose, c'est une force. C'est quelque chose en plus.
D'évoquer là, plusieurs questions à Marcy Faudil. C'est au fond un changement de génération, une mémoire pesante pour des jeunes. Et là, vous êtes architecte. Donc, vous êtes confronté à un problème en tant que jeune architecte. C'est que l'Algérie vit aussi quelque chose de terrible, l'urbanisation. Autant que je sache, dans très peu de temps où c'est déjà fait, la majorité des populations du tiers-monde vivra dans des villes. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une génération ou deux, on a liquidé la paysannerie. Alors ça pose des problèmes énormes de culture, d'économie, mais aussi d'urbanisme. En tant qu'architecte algérien, vous êtes confronté à ça. Quel type de construction, quel type de bâtiment, quel type de projet de ville pour une population qui brutalement vient de la campagne?
Quand on parle d'urbanisation, c'est une autre échelle. C'est parce qu'il y a l'architecture. Et quand vous dites urbanisation, ça veut dire structurer. C'est une échelle plus vaste. Quand on parle d'urbanisation, on doit parler de planification, ce qu'on appelle la planification urbaine. Quand on parle d'architecture, ça peut se... Architecture, argent, le coût est peut-être dérisoire. Mais quand on parle de planification urbaine, ça se chiffre en milliards. Et quand je dis en milliards, c'est en milliards de dollars. Ça veut dire planifier l'urbanisme d'un pays ou d'une ville, c'est vraiment donner les moyens pour créer quelque chose qui va être en harmonie avec la topographie, avec la structure des voies, il y a beaucoup de choses qui entrent en considération quand on parle d'urbanisme. Il ne faut pas oublier que, moi je vais parler de l'Algérie, il ne faut pas oublier que l'Algérie est un pays du tiers-monde. C'est vrai que ces dernières années, le pétrole est monté et grimpé à plus de 70 dollars le baril. Ça veut dire que l'Algérie a gagné beaucoup d'argent. Mais l'urbanisation et la planification coûtent énormément d'argent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de bricolage quand on parle d'urbanisme en Algérie. Il y a eu beaucoup de bricolage, il y a eu énormément d'erreurs. Décider de créer une ville nouvelle comme ça, je peux parler de la nouvelle ville de Ain Lala, en Algérie.
Ça se trouve à quel endroit ?
C'est la Métidja. La ville de Ain Lala a créé beaucoup de problèmes. Parce que les études qui ont été faites ont été faites d'une manière, et quand ils ont refait les études, on découvre des problèmes par rapport à... Il y a des détails techniques, la recherche du bon sol, est-ce qu'on peut créer une ville, les dessertes, la circulation, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération quand on parle d'urbanisme. Et quand on parle de planification, ça veut dire que ça se passe à l'échelle nationale. Et ce qui se passe aujourd'hui, je parle en Algérie, c'est que tout le monde a envie de vivre en ville. Mais on ne peut pas faire vivre tout le monde en ville. Parce que les villes, elles sont toutes pratiquement... Il n'y a plus de logements, on ne peut plus vivre en ville. Ça veut dire qu'il faut construire des villes. Et pour construire des villes, il faut faire des planifications. Pour faire des planifications, il faut de l'argent. Ça veut dire qu'il y a comme ça une sorte de jeu. On construit, mais on ne donne pas assez de moyens. Et ça crée des cités et des choses qui n'ont aucune relation avec ce qui existait avant.
Mais mince, c'est une course contre la montre. Une course contre la montre parce que la population augmente.
La population augmente, mais... Mais les solutions ne sont pas là. Il y a énormément de demandes de logement en Algérie, mais on n'arrive pas à subvenir aux besoins de tout le monde. Il y a eu dernièrement je sais pas comment on va appeler ça, un projet qu'on a appelé Adl. Ça veut dire permettre à des gens d'acheter un appartement et de le payer petit à petit sur 20 ans et il y avait des délais à respecter, et l'État algérien a donné beaucoup d'argent, ils ont ramené les Chinois, pour essayer de créer ces 1 million et quelques de logements. Mais quand on voit aujourd'hui la situation, on se rend compte que finalement les Chinois, c'est vrai, ils construisent vite, parce qu'ils maîtrisent certaines techniques qu'on ne maîtrise pas en Algérie. En plus, il y a le système du roulement, ils travaillent la nuit, ils travaillent la journée... Ils se roulent en équipe. Mais même avec ça, on n'arrive pas vraiment à être dans les temps.
Vous allez avoir un travail sur la planche là, qui est énorme, parce qu'il est politique en même temps. Et ceci est vrai, pas seulement qu'en Algérie, hein. C'est vrai à Bamako, c'est vrai à Bogota, c'est vrai à Mexico... Est-ce qu'on peut avoir une réponse urbanistique à la crise de la paysannerie ? Moi, c'est ça que je poserais comme question.
Moi, à mon avis, le problème, il ne se pose pas de cet angle-là. Parce que, moi, je vais parler de l'Algérie. Je ne pense pas... C'est vrai que, comme ici en France, celui qui veut réussir, il doit monter à Paris. Il y a cette image-là, on veut réussir, on monte à Paris. En Algérie, c'est un peu pareil. Un Algérien qui veut réussir, quelque part, il doit vivre dans une grande ville. Mais il est clair que c'est pas évident. On va pas créer des villes pour les gens qui veulent venir vivre dans les villes. Parce que les gens qui vivent dans l'agriculture, dans les campagnes, aiment bien vivre dans l'agriculture et dans les campagnes.
Bien sûr,
Les
je
deux,
vois.
les développements de villes, les développements des villes, je suis d'accord avec vous, doivent arriver. Et quand vous dites la population est en train d'augmenter, c'est un énorme problème. Moi, quand j'étais étudiant à l'école d'architecture, j'ai fait de l'urbanisme et il y avait un système, ce qu'on appelait le système du dédoublement dans l'urbanisme. Le système du dédoublement, ça veut dire prendre la structure existante et faire un développement sur la structure existante. Ça veut dire, par exemple, la ville d'Alger se dédouble. Et on va retrouver la même structure de l'autre côté, parce que la ville d'Alger, c'est une sorte de baie, ce qu'on appelle la baie d'Alger. Vous avez Boulorine, Bab el Oued, du côté de l'ouest, et on a Bourj el Bahri du côté est. Et le développement colonial, je parle bien du développement colonial, parce que ça, c'est la ville d'Alger a été construite à l'époque coloniale, se développe en dédoublement. Ça veut dire qu'il y a une sorte de rythme. On trouve le rythme. Ça veut dire la ville, c'est une sorte de c'est un développement organique.
Un agrandissement proportionnel, en quelque sorte,
Exactement.
voilà.
Un développement en dédoublement. Ça veut dire qu'on va retrouver des places chaque 500 mètres, par exemple. Et quand on marche, on n'est pas choqué par un changement de skyline. Skyline, par exemple, on a une rue qui fait R plus 5. Quand on va passer au R plus 2, il ne va pas y avoir un changement brusque. Je pourrais vous parler par exemple de la rue de Rome. Rue de Rome, par exemple, à Marseille, c'est une ligne droite. Rue de Rome, Castellane. À partir de Castellane, avenue du Prado. On passe du R plus 5 ou R plus 4, rue de Rome. Et quand on arrive du côté de Luminy, on arrive à des quartiers résidentiels. Et le changement se fait petit à petit,
Progressivement, oui.
progressivement. À mon avis, c'est la seule solution pour développer les villes, le système du dédoublement. C'est un système progressif qui n'est pas choquant visuellement et qui permet justement d'utiliser les mêmes structures. Ça veut dire quand on va créer la route, la rue, on va utiliser, ça va être le prolongement de l'ancienne.
Donc
Quand
on
on va.
utilise les structures déjà existantes.
Exactement. Les Français ont utilisé les structures romaines. Par exemple, la ville d'Alger, il y avait la ville romaine. Le chemin, la route numéro 5 qui relie l'est à l'ouest, eh ben c'est l'ancien chemin romain. Et les Français ont utilisé ce chemin romain comme structure. Et la structure en damier d'Alger, parce qu'il y a une structure en damier dans certains quartiers, eh ben c'est la structure en damier utilisée par les Romains. Ça veut dire qu'il faut toujours prendre la structure qui existait avant.
Alors vous êtes contre là les théories architecturales qui sont en rupture, à la limite Le Corbusier.
Le Corbusier a. Ce qu'on appelle l'unité d'habitation. D'ailleurs, à Marseille, il y a un bâtiment, c'est la radieuse,
Oui,
la radieuse
la
de
cité
Marseille.
radieuse, oui.
Voilà. Et les cités radieuses ont prouvé leur échec, socialement parlant, et parce que c'est l'ancêtre de la cité, quelque part. C'est de créer des bâtiments tout autour des villes. On voit ce qui se passe en banlieue parisienne. C'est le problème des cités.
Merci Faudil. Au fond, les questions d'urbanisme éclairent d'un jour très aigu les problèmes de société, les problèmes politiques, tout ce dont nous avons parlé. Vous m'avez dit quand on s'est rencontrés, mais moi je me considère comme citoyen du monde. Et je voudrais que vous parliez un peu de ça.
Par rapport à citoyen du monde, c'est pas très original parce que je suis pas le premier à dire ça. Mais quand je dis citoyen du monde, ça veut dire... J'ai du mal à vous expliquer parce que, comme j'ai dit auparavant, moi, mon adolescence, je l'ai passée... on a vécu la période noire, la période de la violence. C'était... Imaginez un adolescent vivre dans un pays où la violence règne et tout. Et il ne faut pas oublier une chose... c'est que l'Algérie, d'avant les événements de violence et tout, était considérée comme un pays respectable et tout. Et l'Algérien pouvait voyager. Et...
Oui.
Mais à partir du moment où la violence a commencé en Algérie, tous les pays ont fermé les portes. Ça veut dire...
fermé les portes à l'Algérie.
À l'Algérie et aux Algériens. Moi, je me souviens, dans les années 80, l'Algérien pouvait voyager, pouvait venir en France, il pouvait partir en Europe, et c'était pas difficile. Mais dans les années 90, avec la violence terroriste, tous les pays ont fermé leurs portes.
Et les pays du monde arabe aussi.
Les pays du monde arabe, mais il est plus facile pour un Algérien de voyager vers un pays arabe que... voyager en Europe
ou vers les États-Unis, oui.
Ouais. Il ne faut pas oublier aussi que la France a subi aussi quelques attentats terroristes qui ont fait que la France est devenue très, très réticente au mouvement Maghreb-France, France-Maghreb. Voilà. Et quand je dis citoyen du monde, ça veut dire j'ai envie de voir du monde. J'ai envie de voir d'autres cultures. Et quand je dis ça, c'est pas, je dis pas ça avec souffrance ou parce que j'ai vécu toute ma jeunesse en Algérie, mais je connais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe aux États-Unis. Je sais ce qui se passe en Europe. Je pourrais vous parler de la politique française facilement. Et ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce renfermement nous a permis justement d'analyser les choses et de nous intéresser aux autres. Internet s'est développé d'une manière très rapide. La télé numérique s'est développée d'une manière très rapide. Ça veut dire l'Algérien, le jeune Algérien, est très au courant de ce qui se passe ailleurs. Parce qu'on ne vit que entre nous. Alors on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs. Et on a cette soif de voir autre chose. Et quand je dis citoyen du monde, ça veut dire j'ai envie de voyager, de communiquer avec d'autres personnes, de communiquer avec d'autres origines. J'ai passé toute ma jeunesse à communiquer qu'avec des Algériens. Et ça vous crée une forme de frustration et à un certain moment, vous vous sentez comme, je ne dirais pas un être inférieur, mais quelque part, on se dit, personne ne veut de nous. Pourquoi ? Et je le dis encore, ce n'est pas avec souffrance, et je suis très fier d'être Algérien, et je suis très fier de mon histoire, et voilà. Et à mon avis, tout ça est dû justement, je reviens toujours à mon père, parce que mon père est finalement la tête à abattre dans la famille. C'est la personne qui a voyagé le plus, c'est la personne qui a côtoyé le plus de gens de différentes cultures, le Moyen-Orient, l'Occident. Et quelque part, je me sens obligé de, je dirais pas de suivre son chemin, mais quelque part d'essayer d'être à sa hauteur. D'ailleurs, quelque part, dans ma tête, je crois que j'ai fait architecture quelque part pour lui ressembler.
Et pour le dépasser.
Et peut-être pour le dépasser.
J'espère bien.
Je dirais pas moi aussi, mais voilà.
Merci, Dauphine. Je vous remercie.
Merci à vous.
La traversée. Une émission de Lucien Bertolina et Gilbert Racina. Prochain rendez-vous, le dimanche 18 février, sur les 3-8 de la Grenouille à 20h. Bonsoir.